salut et bienvenue dans Bol, votre émission littéraire sur Radioactive 101.9 FM et sur le www.radio-active.com. Bol, c'est B-O-L, bande originale de livres. Je vous parle d'un livre que je mets en musique en fonction des émotions qu'il m'a fait ressentir. Nous sommes ensemble pour une demi-heure, c'est Patrick pour vous servir et Bol, c'est parti! Heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Bol. Aujourd'hui, je vous parle du roman d'Evelyn Céleste Fischer, Le figuier stérile. C'est un roman paru chez L'Harmattan. Il s'agit d'une dystopie, un petit peu particulière parce qu'elle se base sur des phénomènes que nous connaissons tous, tous autant que nous sommes, puisqu'il parle de stérilité, ce roman. Pourquoi je vous dis qu'on le connaît tous? Ben, je pense ne pas être le seul ici à avoir dans mon entourage des personnes qui essayent d'avoir un bébé et qui n'y arrivent pas. C'est quelque chose qui est assez assez troublant parce que ça s'accélère en fait depuis quelques années. Et c'est ce que pointe d'ailleurs Evelyn Céleste Fischer au début de ce roman, qui est une pure fiction, hein, je tiens à vous rassurer là-dessus, mais qui se base quand même sur un constat un petit peu alarmant, celui de la baisse de la fécondité, notamment par le fait que le sperme est de moins bonne qualité et que les spermatozoïdes forcément sont un petit peu moins performants, ce qui fait que de plus en plus de couples ont désormais recours à la fécondation in vitro pour pouvoir réussir à avoir des enfants. Donc ce roman est une dystopie qui fait assez froid dans le dos, hein, je vous l'avoue, même si, pareil, que dans beaucoup de romans, il y a une lueur d'espoir qui apparaît à la toute fin du bouquin, et qui revient sur le parcours du combattant, parce qu'il s'agit d'un vrai combat, d'un couple qui essaye d'avoir un bébé et qui, dans cette... Ouais, je dis une dystopie, mais c'est presque un roman, j'allais dire un roman classique, social presque, ou scientifique, qui se passe dans notre siècle, à la fin de celui-ci, donc dans les années 2080, par là, mais qui, justement, commence un petit peu dans les sphères d'aujourd'hui, quoi. Donc, je vous dis, c'est un livre qui est très pessimiste, qui est très noir, et qui possède une narration assez particulière, qui renforce encore ce côté pessimiste, et lui donne aussi des contours très très intéressants. Mais écoutez, je vais vous en parler juste après un premier morceau de musique, et vous allez voir que ce roman, il possède des belles qualités qui font que j'espère vous aurez envie de le lire. À tout de suite.
In a class of 22, and he knew it early on, so his confidence kept growing. By 30, he had been with every girl deemed worth it to be with in the village, 2 years either side of his birthday. He played football, boy could he play. He played every single day, and he still does. A scout from Crewe Alexander came to watch him once, and they said that they were gonna be in touch. Of the team without ever asking to be, without ever being told. That counts for a lot, still, believe it or not. Lo and behold, everyone fell in line behind the hair on his legs and hair on his lip. He was the... He could smoke 10 a day and still run faster than that whippet that could lap the racetrack rabbits. He could dabble in the snow, rubbing shoulders with the rabble, and still never ever touch upon a habit. At age 16, he made his choice to stay and got a job selling houses in the village, which by now had become such a desirable place to settle down. It was classed not as a village, but instead as a small town. Fortunately, despite the influx of newcomers, including for the first time a genuine authentic Italian restaurant run by a family of fantastic old school Neapolitans, he was still the best at football and a most handsome man, taking solace in that fact as his little world continued to expand. He was 20, now being with all the girls deemed worth it in the village, 5 years either side of his birthday. But it was time to settle down, and no kiss had ever felt so electric as the first he'd ever felt all those years ago. Though she had never strayed far, hemmed in by his shadow, the torches lining the path of her own dreams had been growing dimmer by the day. And so, faster than a dying star, she cashed in her chips and checked out, settled for him, and subsequently threw all her own ambitions away. Followed a mortgage, a marriage, a dog and children, a lost conversion, a dead dog and a second home on the Costa del Sol. In the hopes of stoking the coals of two long lost souls, which comes first, counselling or keys in the bowl? Put his own mother in a home. God made redundant twice, never once was he on the dole. On his vision, room spinning, clutching the curtain, waving from the window. They thought he was grinning, he was grimacing, begging them to notice him, twitching, notice no one is helping him. The grandkids waving through the rear windshield as the big electric gate draws a line in between them. A fine, fine line between benign and malignant. So get yourself checked, book yourself an appointment. So get yourself checked, book yourself. To mourn his end, full house, he would have been so proud, knowing that no one said a bad word about him aloud. He wasn't perfect, he was my friend. He wasn't perfect, but he was one of us. He was one of us. Black bears his full name on a bench by the water's edge, the dates he came and went, and a quote about life and death from a song he'd never heard. Cause he wasn't too fond of long songs with lots of words. If I were him, I'd have never left the village either. But I did, and I know full well that there are more handsome men and better footballers out there in Greater Manchester. They would have cut him down to size if they could have, but what good would that do? He bloomed and he grew and grew, and still he was doomed. Same as me, same as you, same as everyone I ever knew. You. Sometimes still I think about you, out there, somewhere, floating in the ether. Born, died in the wool, never knowing of a belly half full. So many of us just trapped in a barrel, with no feasible means to escape the inevitable cull. There are those that grow thick skins quick for the sake of their sins, and the savvy folk that just keep their mouths shut and take it all on the chin. We collide with each other, we submit and we bare our teeth. We catch fish using giant metal ships and scream with laughter at 4 a.m. staggering home down moonlit country lanes. We cry because children are dying across the sea and there is nothing we can do about it, whilst we benefit from the bombs dropped which we had no part in building. We are sorry, truly we are sorry. We are just trying to get
Vous
by
êtes
too.
Toujours à l'écoute de Bol sur Radioactive 101.9 FM ou sur le www.radio-active.com. Je vous parle aujourd'hui du roman d'Evelyne Céleste Fischer, Le figuier stérile, et c'est paru chez L'Harmattan. Ce roman, c'est une dystopie qui se passe donc durant notre siècle, dans les années 2080, quelque chose comme ça. Et durant ce siècle, la population mondiale a vu son taux de fécondité s'effondrer comme un château de cartes. Il y a tout d'abord eu cette mauvaise qualité du sperme, des spermatozoïdes plus feignants, qui ont fait que, ben voilà, les couples n'arrivaient plus à avoir d'enfants. Et on suit le parcours d'un couple qui essaye, ben voilà, d'en avoir un. Donc on suit un petit peu tout son parcours, tout son protocole sanitaire, sans mauvais jeu de mots, ou en tout cas médical, pour tenter d'avoir un enfant. Donc ça commence par des fécondations in vitro. Donc l'homme est stérile, la femme a priori ne l'est pas. Donc il y a des ovules qui sont fécondés, ça ne marche pas. Et puis au fur et à mesure de l'histoire qui avance, on se rend compte que cette femme, elle a un cancer de l'utérus, donc elle ne pourra plus enfanter parce qu'il faut lui enlever. Alors se pose la question d'une GPA, donc d'une gestation par autrui. Des thèmes qui font toujours parler d'eux, hein, PMA, GP1, je crois, hein, et qui sont ici évoqués dans un contexte un petit peu jusqu'au boutiste. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc on les voit, ils cherchent des donneurs. Alors il faut savoir que les donneurs se font de plus en plus rares. Au début, les banques de sperme, mais c'est ça en gros, hein, elles avaient beaucoup de donneurs, mais au fur et à mesure des années qui passent, ceci se raréfie. Alors il y a les circuits légaux qui font les choses dans les règles de l'art, et puis il y a des circuits un petit peu parallèles qui les font un petit peu plus à l'arrache. Ce couple-là, lui, décide rester dans les clous et donc aura recours à différents hôpitaux pour essayer de procréer. Et ils ont un autre couple d'amis qui essayent d'avoir, et eux, ils passent par un réseau parallèle. Ils ont un donneur, une mère porteuse, et comme c'est pas fait dans les règles de l'art, ils auront un enfant effectivement, mais qui ne sera pas en bonne santé. Donc pour en revenir à ce couple, il se trouve qu'ils veulent avoir recours à une mère porteuse, mais il y a aussi d'autres choses qui se passent, c'est-à-dire que les progrès de la science étant ce qu'ils sont, on découvre que certains scientifiques ont réussi à mettre en pratique et à rendre presque viables des enfants qui pourraient naître dans des utérus artificiels en dehors de tout corps humain. Et là, la science et la science-fiction ne font plus qu'un, parce que c'est des choses qui sont, en tout cas dans le livre, très bien expliquées, très bien menées, très bien documentées aussi. Et ça fait très froid dans le dos parce que ça pose énormément de questions éthique, morale, et je trouve que Evelyne Céleste Fischer, justement, elle parvient à le faire d'une très belle manière, notamment dans sa narration, qui est un petit peu un mélange entre justement le roman, c'est-à-dire qu'on suit l'évolution du couple, on suit ses interrogations, ses doutes, on suit ses états d'âme aussi, cette désespérance de ne pas réussir à avoir d'enfants, de se sentir dégoûté d'un petit peu tout ce qui se passe dans cette société, qui est une société finalement qui se meurt. Ça se passe en France, mais c'est un petit peu partout pareil dans le monde. même si, a priori, dans des pays qui sont moins industrialisés, le problème est un petit peu plus minime. Mais bref, ça touche toute la planète, ça touche pas que les hommes, ça touche également les espèces animales qui, pareil, ne se renouvellent pas. Et moi, je ne sais plus où je voulais en venir. Bah si, c'est quelque chose qui fait assez froid dans le dos. Ces états d'âme sont développés non pas pour nous faire de la peine, pour nous rendre tristes. Il n'y a pas de pathos non plus, donc c'est pas larmoyant pour être larmoyant, mais ça pose vraiment beaucoup de questions sur ce qu'est le couple quand il n'arrive pas à avoir d'enfants. Et là, par exemple, il y a des phrases qui sont assez justes et pertinentes quand ils disent que, voilà, quand on essaye d'avoir un enfant et que ça ne marche pas, ben, quand le couple fait l'amour, c'est dans le but d'avoir un enfant. Ils ne font plus l'amour pour faire l'amour, ils font l'amour pour procréer. Et ça devient quelque chose qui est absolument presque contre nature. En tout cas, ils ne prennent plus aucun plaisir, ils en viennent même à distendre un petit peu les liens qui les unissent. Et justement, c'est assez particulier, ce truc, parce que je crois que c'est très très juste, c'est très très vrai. Les couples qui essayent absolument d'avoir un enfant, c'est vrai que ils ne font plus l'amour sans arrière-pensée de procréation, et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être pesant dans un couple et le mener à la séparation. Donc il y a toute cette partie de narration qui correspond peut-être à un chapitre sur deux, j'allais dire, donc très romanesque. Et l'autre partie, c'est des parties qui sont un petit peu plus, j'allais dire scientifiques ou didactiques ou, informatives, voilà. Informatives, c'est très bien comme terme, parce que il y a pas mal de références à la science, à des personnages fictifs, hein, qui font des conférences pour expliquer les tendances dans le monde, justement, de ces problèmes de fertilité. Est-ce que pourrait causer le recours à la science pour avoir des enfants? Et donc, je trouve que d'alterner ces chapitres, donc je vous disais, c'est à peu près 1/2, mais c'est pas agencé comme ça dans le roman, hein. Il peut y avoir deux ou trois chapitres vraiment basés sur le couple, un sur ces aspects un petit peu plus informatifs, et puis ça tourne, en fait, c'est pas régulier, c'est là que je voulais dire. Néanmoins, les deux se mêlent à merveille pour tirer un petit peu une photographie de ce monde qui est en train de mourir et de ce que ça pose comme problématique. Notamment, on voit qu'il y a des manifestations qui se passent donc à Paris, où réside le couple, et ces manifestations, elles sont juste des expressions de la profonde détresse de l'espèce humaine qui n'arrive plus à procréer ou en des quantités infimes. Et on sent justement cette clairvoyance de l'autrice qui dit, et ils ne manifestent même pas contre un état, ils manifestent juste contre un état de fait, c'est-à-dire celui qui fait que ils n'arrivent pas à avoir d'enfants et que ça leur pèse, que la douleur est ultra présente, qu'ils n'arrivent pas à voir un avenir radieux, parce que quand les enfants ne sont plus là, c'est vrai que c'est beaucoup plus triste, la vie. On a des petits éléments, voilà, qui continuent à nous mettre le bourdon, hein. C'est-à-dire que dans les pharmacies, il n'y a plus de couches, ou il n'y a plus de biberons, ce genre de choses qui disparaissent. Et moi, ça m'a fait penser très fort au film, alors c'est aussi un roman, hein. Les fils de l'homme, avec Clive Owen, qui est assez flippant aussi, qui est sur la même thématique, même si ça se passe au Royaume-Uni, à Londres notamment. Et voilà, moi je trouve que ce problème d'infertilité est quelque chose qui nous touche tous d'une manière ou d'une autre. Je pense pas être le seul à avoir des gens dans mon entourage qui ont essayé d'avoir des enfants et qui ont connu pas mal de galères. Voilà, et l'intelligence également d'Evelyne Salles-Fischer, c'est de parler aussi des animaux qui eux-mêmes n'arrivent plus à procréer. Peut-être que vous avez entendu parler notamment de ces poissons de rivière qui sont rendus stériles. On se demande comment ça peut être possible, vu qu'on leur injecte pas de molécules comme celle de la pilule. Mais il faut savoir que les eaux usées chez vous, quand vous tirez la chasse d'eau, ça part dans une station d'épuration où elle est nettoyée, elle est relancée dans les cours d'eau. Mais il faut savoir que les traitements dans ces stations d'épuration, notamment les traitements à l'ozone, ne tuent pas toutes les molécules, notamment celles de la fameuse pilule, ce qui fait que les poissons des rivières qui sont l'eau qui est rejetée là dans ces cours d'eau, elle est pas buvable, si vous voulez, elle est pas potable, mais elle est complètement saine, elle est déchargée de tout ce qui est nocif. Néanmoins, certaines molécules continuent de se propager, et voilà, il y a des poissons, des truites ou des choses comme ça, des poissons d'eau douce en tout cas, qui sont stériles à cause de ça. Donc en fait, on voit bien qu'il y a à la fois une critique un petit peu de ce monde ultra industrialisé, très riche, qui produit à outrance, et le contre-coup, là, c'est pas un problème de précarité ou d'une partie de la population qui serait mise un petit peu au banc de la société, mais là, ça touche toutes les classes sociales, riches, pas riches, noirs, pas noirs, voilà, ça touche tout le monde, toute la planète, et ouais, je trouve que le roman, il est très, très, très flippant, et si ce n'était cette fin un petit peu plus optimiste, parce qu'il faut une touche d'optimisme, et en fait, elle est très, très bien amenée, cette fin, justement, parce qu'elle est très lucide, elle est très, j'allais dire, même logique, ben voilà, cette fin nous redonne un petit peu espoir en peut-être une évolution de notre société. Écoutez, je vais marquer un petit arrêt avec une pause musicale, et puis on se retrouve juste après pour continuer d'évoquer ce roman, et peut-être également vous lire un petit passage. À tout de suite.
Talking about a girl I used to love, used to care about. Everything much like in a hand in a glove, but you turned me out. I know deep inside how you forget me. I feel dead in an alive body. Your name and deserve less letters. I'm trying out to feel better. I hope I'm not the next one. Try to out a song while it's okay, and until I die. I'm not the next one.
Per noi di licenziarsi, lasciare da rese essenziale. E ora per me di rivera faccia chi dorme in pace in immoraci.
toujours à l'écoute de Bol sur Radioactive 101.9 FM et sur le www.radio-active.com et je vous parle du roman Le Figuier Stérile d'Evelyn Céleste Fischer, roman paru chez L'Harmattan. Il s'agit d'une dystopie qui a pour thématique l'infertilité. Je ne sais plus si je vous ai dit, mais c'est vrai que ce roman prend pour base, en tout cas, des chiffres actuels. Donc, c'est une pure fiction, je le répète. Néanmoins, il y a une base solide sur laquelle l'autrice se base pour nous emmener dans la vie de ce couple qui a bien des difficultés à concevoir un enfant. Je vous disais que la fin du roman est plus optimiste. En tout cas, il y a une vraie lueur d'espoir qui existe et qui fait qu'on en sort de ce roman un tout petit peu mieux que lorsqu'on était en train de le lire, quoi, en fait. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments, même si Evelyn Céleste Fischer ne fait pas en sorte de nous plomber l'ambiance ou elle ne joue pas non plus le pathos à toute berzingue. Ben voilà, c'est quand même d'un pessimisme forcené, quoi, j'ai envie de dire. Et cette touche d'espoir à la fin fait qu'on ressort du livre dans un état un petit peu mieux, qui paradoxalement ne répond pas à toutes nos questions, et c'est là aussi peut-être l'intelligence de l'autrice, c'est de nous laisser avec une conclusion qui tient très très bien la route et qui nous engage à poursuivre la réflexion. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours important, notamment quand vous faites une dystopie, c'est de ne pas justement avoir une fin définitive, parce que justement ça nous amène à réfléchir sur ce qui est en jeu, en tout cas dans tout ce qui a été raconté. Mais écoutez, je crois que je vais vous lire un petit extrait de ce roman. Voilà, le couple est en difficulté pour avoir un enfant et il y a une espèce de, je sais pas, de chaman qui, voilà, une sorte de prêtre New Age qui a presse, une bonne presse en tout cas, enfin qui a presse, qui a voix de cité et qui promet que en suivant un protocole, voilà, en pleine nature, vous pourrez avoir un enfant. Et ben écoutez, je vais vous lire un extrait. Ça se passe page 95 et on va assister justement à la cérémonie. L'hurluberlu en robe blanche qui va présider la cérémonie récite sans conviction une mélopée lancinante tandis qu'arrivent les retardataires, un simulacre dès l'entrée. Il invoque la terre, la déesse primordiale Gaïa qui a le pouvoir de rendre fertiles les humains comme elle rend fertiles les sols, ce qui est devenu la préoccupation essentielle. Il a dû puiser ça dans le fameux grimoire cher à Nicolas ou quelque chose du même genre. Préoccupation essentielle, j'en sais quelque chose. L'art même revient à la représentation de Vénus Stéatopige, semblable aux déesses primitives du paléolithique qui incarnait la fécondité et qu'on assimilait aussi à la terre, la grande déesse. Les peintres que j'expose dans ma galerie s'en inspirent généreusement. J'avais entendu parler de cette clairière où se tient la cérémonie, je la croyais considérée comme un lieu protégé, un peu comme l'était l'espace sacré des églises où on pouvait trouver refuge autrefois. Si la police n'intervient pas ici, c'est pour d'autres raisons. L'endroit n'a pas bonne réputation, mieux vaut ne pas s'y aventurer seul le soir, comme en banlieue. Même les ambulances se font caillasser. Quand tous les adeptes, comme on les appelle Nicolas, sont arrivés, quand le silence se fait, le bonhomme arrête sa mélopée pour commencer ses incantations. Il y a beaucoup de monde. L'activité de ce ministre d'un culte qui exploite la détresse des autres doit être lucrative. À l'aide de ce qu'il appelle un atamé, une dague à double tranchant censée repousser les mauvais esprits, il trace au sol deux cercles concentriques et dispose des lampes à huile entre ces deux circonférences en marmonnant des choses incompréhensibles. Et ben voilà, ça vous donne un aperçu un petit peu de la plume, plutôt haute en couleur, d'Evelyn Céleste Fischer. Et ça concerne donc son roman Le Figuier Stérile, roman paru chez L'Harmattan. Mais écoutez, je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode de Bol. Et en attendant, restez branchés sur Radioactive.